pendant l'enfance, nous sommes beaucoup plus vulnérables aux situations et aux événements traumatisants qu'à l'âge adulte. Notre vision du monde n'est pas encore formée. Elle ne nous aide pas lorsqu'il s'agit d'événements inédits. Nous sommes vulnérables et nous nous sentons rapidement impuissants et dépassés. Nous n'avons pas encore de cadre de référence interne qui puisse nous épauler. Le mécanisme de survie par dissociation, le frein d'urgence, fonctionne déjà de manière similaire à celui des adultes. Mais l'hippocampe et le système limbique n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ils ne disposent pas encore de registres de traces de mémoire qui permettraient de classer les images perturbantes de manière appropriée. Cela peut expliquer pourquoi les troubles psychopathologiques graves dans ce domaine ont presque toujours leur origine dans l'enfance. Il s'avère que les événements traumatisants de l'enfance ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. On rapporte, par exemple, aux États-Unis, près de 5% des enfants ont été maltraités. On estime que 38% des filles et 16% des garçons ont été abusés sexuellement avant l'âge de 18 ans. En outre, les enfants sont souvent témoins de violences indirectes, telles que des agressions et des violences dans la rue, sans parler des états de guerre dans de nombreuses régions du monde. La fonction d'un frein de secours interne, décrite ici, leur permet de continuer à fonctionner malgré le traumatisme aigu qu'ils ont subi. Cependant, elle laisse des effets secondaires dans le cerveau. Les traces de ces expériences, qui n'ont pu être comprises qu'incomplètement dans l'enfance, restent comme des abcès à la limite de ce qui peut être visualisé consciemment. Tant que ces résidus ne sont pas neutralisés et traités, ils exercent une influence sur toute leur vie à venir. Le trouble dissociatif de l'identité est un traumatisme particulièrement grave qu'on retrouve chez les patients qui ont été victimes d'abus persistants pendant leur enfance. Je connais des cas où des gens ont vécu avec des personnages de fiction et ont communiqué avec eux sans jamais se demander s'ils pouvaient vraiment exister. L'hypnose peut être utilisée pour découvrir et traiter les traumatismes de leur enfance. Dans ces cas, il est possible de faire disparaître ces perceptions paranormales. Je me souviens d'un patient qui avait assisté à la mort de sa petite sœur, qui avait un an de moins que lui, alors qu'ils étaient enfants. Il jouait dans la rue, même si lui, le frère aîné, savait que ses parents l'avaient interdit. Lorsqu'il a décidé d'appeler sa sœur pour qu'ils rentrent ensemble à la maison, c'est arrivé. Sous ses yeux, sa sœur a été tuée par une voiture qui passait alors qu'il voulait traverser la rue. Le garçon a grandi normalement, mais à l'âge adulte, il n'avait gardé aucun souvenir de son enfance. Plus tard, il a suivi une psychothérapie parce qu'il avait remarqué qu'il se sentait vide et tendu chaque fois qu'il rendit visite à ses parents. Chaque fois que quelque chose était dit sur son enfance, dans une conversation avec sa femme ou ses collègues, et même s'il n'y avait aucun lien avec lui, il avait un regard distant et vitreux dans ses yeux. Grâce à l'hypnose, il a pu accéder au souvenir de la mort de sa sœur, qui était restée comme encapsulée dans sa mémoire et détachée de toute émotion. Une amélioration de son état n'est cependant intervenu qu'après qu'il ait été confronté à plusieurs questions difficiles et bien explicites. Il devait répondre à la question de savoir si c'était vraiment lui qui avait tué sa sœur qui était responsable de lui à l'époque, et si un garçon de 6 ans pouvait être tenu responsable pour la vie de sa sœur. Une autre affaire concerne une mère aimante et attentionnée qui a soudainement commencé à voyager et a laissé sa fille chez des voisins et des amis après que sa fille ait eu 12 ans. Cependant, en voyageant, elle se sentait malheureuse et seule. En thérapie, nous avons compris que sa propre mère était morte subitement alors qu'elle, la patiente, avait 12 ans. Elle n'avait pas versé de larmes et avait terminé avec succès ses études. Le traumatisme de la perte soudaine de la mère lui a cependant laissé un message qu'elle n'avait pas pu verbaliser auparavant. Une jeune fille de 12 ans doit se battre seule pour sa vie future. Il y aurait encore beaucoup d'autres cas à signaler. C'est ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont vu un traumatisme dans leur enfance. Ils ont réussi à mettre ce traumatisme de côté en tirant sur le frein de secours interne et ensuite continuer leur vie comme si rien n'était. Mais à chaque fois, l'événement a laissé des traces profondes que les personnes touchées ignoraient et le reste de leur vie en a été fondamentalement affecté. À la question de savoir, c'est ce qui peut être fait lorsque nous découvrons un tel trouble en nous-mêmes ou chez un proche, je vous répondrai comme suit. Le premier pas consiste à tenir un journal des rêves et à pratiquer une forme de méditation dans laquelle vous essayez d'observer clairement votre esprit et vos souvenirs sans essayer de les influencer de quelque manière que ce soit. Ensuite, il est également utile de visiter d'anciens lieux liés aux souvenirs les plus désagréables. Il est important de cesser de s'apitoyer sur soi-même et de s'identifier comme des victimes afin que les personnes qui vous ont maltraité ou torturé n'aient plus de pouvoir sur vous. Dans des cas plus graves de troubles dissociatifs de l'identité, il y a également des changements de personnalité qu'on peut appeler des switches. Ou par exemple, notre ami Charles agit soudainement comme s'il était quelqu'un d'autre. Pour l'aider, vous pouvez vous adresser à lui en disant « Puis-je parler à Charles quand il est prêt à revenir ?» Ensuite, vous pourrez lui demander s'il accepte d'aller voir un thérapeute avec votre soutien pour se faire soigner.